Dans la vie, il y a plein de choses banales, normales, convenues. Avoir un toit, des amis ou un voisin désagréable qui ne dit pas bonjour. Voir le soleil se coucher, marcher dans l'herbe sèche, entendre un portail grincer ou un chien aboyer. Des choses qu'on regarde à peine, dont on ne prend parfois conscience qu'une fois qu'elles ont disparu. Regardez autour de vous. Est-ce qu'il y a des livres, des stylos, un peu de bazar à vos pieds, un bout de ciel par la fenêtre? Oui? Alors, rendez-vous compte de la chance que vous avez. Tout ça raconte votre histoire. Et un jour, peut-être, comme Colette, vous y repenserez en vous disant que c'était précieux. Enfin, peut-être pas le voisin. Sido, suivi de Les vrilles de la vigne, Colette, 1930. Podcast L'écume des œuvres, Hachette Éducation.
Sido est composé de trois parties. Sido, le capitaine, les sauvages. Dans la première partie, la narratrice, en évoquant des souvenirs d'enfance, dresse le portrait de sa mère Sidonie, surnommée Sido. Facile de s'en souvenir, c'est le nom du livre. D'ailleurs, lorsqu'un personnage donne son nom à l'œuvre, on parle de personnage éponyme. Sido semble être une femme sévère, avec des avis bien tranchés, sur les Parisiennes et les gens en général. C'est aussi une mère de famille active qui prend soin de sa maison, mais sans y prendre plaisir. La seule chose qui semble l'apaiser, c'est la nature.
Toute présence végétale agissait sur elle comme un antidote.
Sido est un puits de science, elle aurait fait une excellente conseillère au jardin Leclerc de Saint-Sauveur-en-Puisaye. Colette va évoquer son jardin et ceux de ses voisins dont elle décrit les habitudes. On croirait qu'elle décrit un paradis terrestre dont sa mère serait la déesse.
La paix de notre jardin, où les enfants ne se battent point, où bêtes et gens s'expriment avec douceur. Un jardin où, 30 ans durant, un mari et une femme vécurent sans élever la voix l'un contre l'autre. Mon imagination, mon orgueil enfantin, situait notre maison au centre d'une rose de jardin, de vent, de rayons, dont aucun secteur n'échappait tout à fait à l'influence de ma mère.
Il faut dire que Sido semble véritablement connectée à la nature, au point qu'elle est même capable de prévoir le temps qu'il fera. Elle a pour cela toute une série de techniques assez surprenantes, comme observer le comportement des chats, des tortues ou des écureuils. Pas sûr que ce soit aussi efficace que les satellites, mais Sido tombe souvent juste, ce qui ne manque pas d'impressionner sa fille. Sido peut s'énerver, par exemple si sa fille touche aux graines fraîchement plantées, mais sa colère s'éteint bien vite. Elle couvre sa fille d'attention et lui transmet ses connaissances sur la nature. Au fond, elle est très éthique et éco-responsable avant l'heure. En revanche, elle ne s'intéresse pas du tout à la religion, préférant la nature, ce qui n'est pas courant à l'époque. Sido apparaît alors comme une énigme, une femme tiraillée entre la société et un immense besoin de liberté. Lors d'une scène très émouvante, Colette la décrit en train de contempler un merle qui mange des cerises. Contrairement à d'autres qui auraient chassé l'oiseau vorace, elle le laisse faire et se contente de l'admirer. Plus proche de la nature que des hommes, Sido est un brouillard que sa fille peine à percer. Colette évoque ensuite deux souvenirs de sa mère. La fois où il avait neigé en juillet et la fois où il avait plu des grenouilles. Énervé le réchauffement climatique. Au-delà des anecdotes surprenantes aux allures fantastiques ou bibliques, ces scènes permettent de montrer que Sido est également une excellente conteuse, attentive aux surprises du monde. Sido n'est pas toujours tendre avec sa fille, lui reprochant d'avoir l'air bête ou d'être fade. Mais on sent qu'au fond, malgré cette rudesse, elle aime profondément son enfant, qu'elle appelle
« mon joyau tout en or ».
Enfin, elle lui met quand même de sacrés chauds-froids. Apparaît ensuite Adrienne, une voisine qui mène une vie de bohème. Sido et Adrienne se ressemblent beaucoup. Elles ont plusieurs points communs, dont une passion pour la nature et pour la littérature. La maison d'Adrienne regorge de plantes et de livres. Au fond, la narratrice sent que Sido est jalouse d'Adrienne. Peut-être parce que sa fille y passe du temps, peut-être parce qu'Adrienne semble plus libre. Puis le temps file, et avec lui, l'innocence de l'enfance.
Ma 12e année vit arriver les mauvaises fortunes, les départs, les séparations. Réclamée par de quotidiens et secrets héroïsmes, ma mère appartint moins à son jardin, à sa dernière enfant.
Colette conclut cette partie en convoquant une ultime image de sa mère. Elle décrit Sido la dernière fois qu'elle l'a vue, à sa place, là, dans ce jardin qu'elle a tant aimé.
Inspirée et le front levé, je crois qu'à cette même place, elle convoque et recueille encore les rumeurs, les souffles et les présages qui accourent à elle, fidèlement, par les 8 chemins de la Rose des Vents.
Après avoir si magnifiquement dressé le portrait de sa mère, Colette s'attaque ensuite à celui de son père dans la deuxième partie. Jules Joseph, surnommé le capitaine, est lui aussi un être mystérieux. C'est par des bribes de souvenirs qu'on va découvrir cet ancien soldat amputé d'une jambe. Il a conservé une certaine vigueur, mais même physiquement, la narratrice peine à le décrire tant ses souvenirs sont vagues.
Il erre et flotte, troué, barré de nuages, visible par fragments.
Jules Joseph Colette a plusieurs passions. Il aime écrire, même s'il a peu de talent. Il aime aussi ses enfants, mais Colette sent au fond qu'il le gêne un peu. Il aurait rêvé de passer plus de moments seul avec sa femme. Même s'il est doux, ce père énigmatique peut se montrer jaloux, froid ou colérique. Quand le capitaine n'utilise pas sa belle voix pour crier, il le fait pour chanter. Chanter lui permettait de ne pas parler de ses problèmes, de cacher sa peine et d'esquiver les questions. Car la vie n'a pas été tendre avec lui. À 29 ans, il a eu la cuisse arrachée durant la guerre. Il aurait voulu mourir au champ d'honneur.
Mourir publiquement et avec gloire, au milieu de la place, sous le drapeau.
Mais il fut sauvé. À travers ses souvenirs, perce peu à peu l'image d'un homme qui est comme passé à côté de la vie qu'il aurait voulu avoir. Et Colette regrette de ne pas l'avoir mieux connu, de ne pas avoir osé discuter avec lui quand il était encore en vie. Il faut dire que le père semble en décalage à côté de Colette et de sa mère. C'est un citadin exilé à la campagne. Très sociable, il fait un peu de politique, aime la science, organise des sorties en famille le dimanche. La nature pour lui est plus un décor qu'une amie, et il aime assez peu les animaux, au point que même le chien ne lui obéit pas. Mais s'il a bien une caractéristique prédominante, c'est qu'il aime profondément sa femme. Quand Sido reste pudique en public, lui peine à cacher tout l'amour qu'il lui porte. Lorsque Sido tombe malade, le capitaine est terrifié à l'idée que sa femme meure avant lui. Il sait qu'il ne pourrait pas vivre sans elle. Que Sido subisse des opérations graves ou qu'elle manque simplement de s'étouffer avec une arête, le père, terrifié, montre de l'impatience, s'énerve et fait même du chantage à la guérison. Colette voit dans cette attitude, dans l'inquiétude du père, dans la lassitude tendre de sa mère, le témoignage de la passion qui toujours les lia. Colette fait ensuite un bond dans le temps pour nous raconter sa rencontre avec Madame B., une voyante. Lors de la séance, la femme lui décrit un esprit qui se trouve derrière elle, un vieil homme. Colette reconnaît son père. Madame B affirme que cet esprit veille sur elle depuis l'au-delà, car elle représente ce qu'il aurait voulu être sur Terre.
« Vous êtes justement ce qu'il a souhaité d'être. Lui, il n'a pas pu. »
En effet, Colette a réalisé le rêve de son père en devenant autrice, et ce lien semble les unir à jamais. Son père a manqué une carrière d'écrivain, laissant à ses enfants de nombreux livres aux pages blanches. La seule page que le capitaine ait fini de rédiger est une dédicace.
« À ma chère âme, son mari fidèle, Jules Joseph Colette. »
Et c'est sur cette ultime référence à la littérature et à l'amour sans fin du capitaine pour Sido que s'achève cette partie du récit. Ensuite, le portrait de famille se poursuit dans une dernière partie qui se focalise sur les deux frères de Colette, Achille et Léo, que Sido appelle avec un brin d'agacement
« les sauvages ».
La narratrice commence par évoquer la mort du premier de ses frères et la vieillesse du second, désormais âgé d'une soixantaine d'années. Elle a recours à l'écriture et aux souvenirs pour comprendre
comment se forma le sexagénaire à moustache grise
qu'est devenu Léo. Et c'est parti pour un petit flashback des familles, mais littéralement. Elle va d'abord nous décrire Léo enfant. Il aimait jouer du piano, mais sa spécialité était de disparaître, de se cacher. Sido était persuadé qu'il deviendrait musicien, mais cela n'arriva pas. Un jour, alors qu'ils sont âgés, Léo vient rendre visite à sa sœur. Il dit revenir de Saint-Sauveur et la nostalgie s'installe. Colette lui demande comment se porte la campagne.
Fini, coupé, plus rien, rasé, on voit la terre.
Répond son frère avec amertume. Il est particulièrement marqué par le fait qu'une grille du château de leur enfance ait été huilée. Cela a fait disparaître le grincement qui avait bercé son enfance, un de ces petits riens qui en disent tant parce qu'ils soulignent l'impact du temps qui passe. Après cette scène mélancolique, Colette revient dans le passé et nous présente un jeu auquel jouaient ses frères. Lire des livres en cherchant le mot « mignonne » qu'il détestait. Oui, bon, question fun, on n'est pas sur un FIFA ou un Fortnite, mais ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Ils avaient aussi des jeux moins mignons, justement, comme celui d'embêter Mathieu, un jeune garçon dont ils se moquaient beaucoup, allant jusqu'à parler de le tuer pour rigoler. Pas hyper drôle. Ensuite, Colette se concentre sur Juliette, sa sœur aînée, très peu mentionnée dans l'œuvre, car elle est
« étrangère à nous, étrangère à tous », volontairement isolée au sein de sa propre famille.
Colette évoque en particulier le mariage de Juliette. Le jour du mariage, Colette décrit sa sœur.
Tremblante de faiblesse nerveuse, toute petite, accablée de failles et de tulle blanc, pâle et qui levait sa singulière figure mongole, défaillante, soumise.
Puis le livre se termine sur le frère aîné, vieilli et un peu triste, cherchant lui aussi à retrouver l'adolescent qu'il avait été. Et c'est ainsi que s'achève Sido et notre voyage au cœur des souvenirs de Colette. C'était beau, non? Vous en voulez encore? Eh ben ça tombe bien, il y en a. Très souvent, Sido est accompagné de plusieurs autres nouvelles, courtes et variées, regroupées sous le titre « Les vrilles de la vigne ». Ces nouvelles, écrites bien avant Sido, abordent plusieurs thèmes. Tout d'abord, les souvenirs et la nostalgie, comme dans la nouvelle « Rêverie du Nouvel An », où Colette repense à son enfance, se disant qu'elle était
« une enfant très aimée, entre des parents pas riches, et qui vivait à la campagne, parmi les arbres et les livres ».
On y retrouve également l'évocation de la nature et de l'amour. À ce sujet, l'autrice peut être tendre, comme dans « Nuit blanche » où elle décrit avec poésie son lit, cet objet si familier et si intime, puis son amant, dont on ignore d'abord s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Elle peut aussi être critique, comme dans les nouvelles « Belle de jour » ou « La guérison », dans lesquelles son amie Valentine est sans cesse rejetée par son amant. Les nouvelles de Colette sont pleines de superbes métaphores et d'allégories. Les vrilles de la vigne, par exemple, nous parle d'un rossignol
retenu prisonnier par un sarment de vigne.
Cette métaphore permet à l'autrice d'exprimer un sentiment d'emprisonnement qu'elle a elle-même ressenti.
Cassante, tenace, les vrilles d'une vigne amère m'avaient lié, tandis que dans mon printemps, je dormais d'un somme heureux et sans défiance.
En parlant de rossignol, Colette fait la part belle aux animaux. Elle met souvent en scène sa chatte Nonoche ou fait dialoguer son chien Toby Chien avec la chatte Kiki la Doucette dans la nouvelle « Dialogue de bête ». Colette utilise les animaux pour parler des humains et de ses sentiments. Enfin, Colette parle d'art sous plusieurs formes, du maquillage au music-hall, et elle se livre à de surprenantes expérimentations poétiques et littéraires, comme par exemple dans la nouvelle « Le miroir », où elle se met elle-même en scène dans un dialogue avec Claudine, l'héroïne de sa célèbre saga littéraire inspirée de son enfance. Dans ce dialogue brillant, Colette, l'autrice, fait face à son personnage, les deux se plaignant qu'on les confond toujours. Vous l'aurez compris, il n'est pas aisé de résumer tout ce qui est dit et raconté dans Sido et Les vrilles de la vigne, tant ses œuvres reposent justement sur les non-dits, sur les sous-entendus et sur les impressions. Ce sont des nouvelles dans lesquelles il faut se plonger comme dans un lac et se laisser porter à la découverte de personnes, de lieux, de sensations, de mémoires disparues et étrangères qui soudain, par la puissance de la poésie et des mots, nous deviennent familières et partagées.
Dans la vie, il y a plein de choses qui peuvent paraître banales, normales, convenues. Caresser un chien, cueillir une fleur pour sa mère, entendre un chat miauler, voir la lumière passer à travers les interstices des volets en été. Et puis on lit un livre, Sido de Colette par exemple, et on se dit qu'en réalité, ça n'existe pas les choses banales, normales ou convenues. Ça n'existe pas parce que tout peut devenir incroyable, enivrant et splendide. Alors, on referme son livre, on arrête d'écouter son podcast et on regarde autour de soi toute la beauté ordinaire du monde. Et on se dit, avec un sourire doux ou mélancolique, que la vie est pleine de richesses invisibles et que ce sont ces richesses qui constituent le trésor du monde. Et ouais, même le voisin. Sido, suivi de Les vrilles de la vigne, Colette, 1930. Podcast L'écume des œuvres, Hachette Éducation.